les paraboles du royaume. Les paraboles permettent à Jésus de nous révéler les secrets de Dieu dans un langage accessible à tous, à travers des images de la vie quotidienne. Jésus dit tout cela aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans paraboles. Évangile de Matthieu 13, 34. Il a réellement aimé et respecté le peuple, la foule. Il leur a parlé un langage qu'ils pouvaient saisir. Il ne cherchait pas à éblouir, à étonner, mais enseignait avec des images tirées de la vie quotidienne et dont le sens n'échappait à personne. Il allait plus loin et leur révélait les mystères de Dieu cachés depuis la création. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je dirai à haute voix des choses cachées depuis la création. Évangile de Matthieu 13, 35. Il leur proposait la parabole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Or, il ne leur parlait pas sans parabole, mais il expliquait tout à ses propres disciples en particulier. Évangile de Marc 4, 33 à 34. Parabole du trésor et de la perle précieuse. Pour nous faire saisir l'absolu du royaume qui nous entraîne à une action radicale, si nous les découvrons, Jésus nous livre ces deux images. Le règne des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé l'a caché, et dans sa joie il va et vend tout ce qu'il a, et il achète ce champ-là. Le règne des cieux est encore semblable à un homme marchand, cherchant des belles perles. Ayant trouvé une perle précieuse, il s'en alla, vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Évangile de Matthieu 13, 44 à 46. Dans les paraboles du trésor et de la perle précieuse, on retrouve le thème central de la pauvreté. Jésus nous enseigne la dépossession de tout ce qui empêche d'acheter les champs au trésor ou la perle fine. Cette pauvreté nous fait découvrir la richesse de l'amour de ce Dieu Père qui a osé nous créer pour bien autre chose que pour les splendeurs et richesses de la terre. D'ailleurs, c'est un trésor qui apporte la joie, au contraire des trésors humains. Voilà pourquoi la religion que Jésus nous enseigne et la vie qu'elle nous apporte nous procure une joie qui surpasse toutes les peines rencontrées pour s'approprier ce trésor ou cette perle. Mais il s'agit d'une joie discrète qui se contient. Elle a cependant une telle puissance, elle nous envahit si fort, cette joie de la découverte du Dieu Père, et celle de notre entrée dans la famille divine, que plus rien ne compte. Les décisions radicales sont prises sur les coups pour nous emparer de cette vie. Jésus nous enseigne aussi dans les paraboles du trésor et de la perle précieuse que notre liberté, une fois orientée vers Dieu, dans un choix généreux, nous entraîne à tout coup à la folie de l'abandon de tous les créés pour posséder la joie même des dieux. Pour Jésus, celui qui a orienté sa liberté vers Dieu et son royaume n'en aura jamais fini de faire des trouvailles. Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela ?» Ils lui disent, « Oui. » Il leur dit, « C'est ainsi que tout scribe initié à la doctrine du règne des cieux est semblable à un homme maître des maisons, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Évangile de Matthieu 13, 51 à 52. La parabole du filet jeté en mer. Cette parabole nous rappelle que le royaume des dieux n'est pas ici-bas un monde utopique. Il y a le bien et le mal, tout cela est mélangé, car Dieu n'est pas pressé. Le règne des cieux est encore semblable à un grand filet jeté dans la mer et qui ramène les poissons de toute espèce. Lorsqu'il fut rempli, ils le tinrent sur les rivages et s'étant assis, ils ramassèrent les bons dans les vases et jetèrent dehors les mauvais. Ainsi en sera-t-il à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes. Évangile de Matthieu 13, 47 à 49. Ici-bas, le royaume n'est pas figé. Il nous est toujours loisible d'être compté parmi les bons poissons et d'échapper à la condamnation. Celle-ci n'aura lieu qu'à la fin du monde. Alors les anges jetèrent les méchants dans la fournaise du feu. Évangile de Matthieu 13, 50. La parabole de l'ivraie. Jésus n'aime pas la violence qui compromet tout. Il tolère le mal à côté du bien ici-bas. Aussi, dans la parabole de l'ivraie, recommande-t-il de ne point arracher celle-ci, de peur d'arracher en même temps les froments. Les serviteurs lui dirent, « Alors, veux-tu que nous allions ramasser l'ivraie ?» Il dit non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez avec elle les froments. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et attachez-la en botte pour la brûler. Quant au froment, amassez-le dans mon grenier. Évangile de Matthieu 13, 28 à 30. Difficultés, ennemis, contradictions sont aussi nécessaires dans son royaume que l'alternance des saisons pour les divins agriculteurs. Il ne les retirera donc pas de son champ, même celles placées là exprès par son ennemi. Mais il fait remarquer à ses serviteurs trop pressés que le froment continuera de pousser malgré l'ivraie et qu'il a du froment à engranger au moment de la moisson. Jésus nous indique le seul moyen d'influencer la vie spirituelle de nos frères. Il ne s'agit pas de s'inquiéter, d'être anxieux vis-à-vis du salut des nôtres, encore moins d'une action tumultueuse et intempestive à leur égard, mais tout simplement de prier l'Esprit Saint, de leur donner force et lumière de la conversion. Pour Jésus, le mal n'a jamais le dernier mot, et il ne faut pas s'arrêter à la présence de l'ivraie dans les champs, comme s'il s'agissait d'une catastrophe irrémédiable. La force de la semence divine saura apporter le remède et influencer les volontés et les libertés humaines sans les violenter. Jésus est optimiste. Et ses disciples s'approchèrent de lui, disant, « Explique-nous bien la parabole des livrets du champ. » Évangile de Matthieu 13, 36. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Évangile de Matthieu 13, 37. Une semence est faite pour germer, lever, pousser, grandir, se développer, s'épanouir, fleurir, mûrir, lutter contre ses ennemis. Oui, notre Dieu est un Dieu qui bouge. Notre religion est une religion de vie, une semence. Dans l'explication que Jésus nous donne de la parabole du semeur, il se donne comme le semeur et son champ, le royaume de Dieu, est vaste comme le monde. Car tous les hommes sont appelés à devenir les fils du royaume, à entrer dans la famille des dieux. Les bons grains, ce sont les fils du règne. L'ivraie, ce sont les fils du mal. Des fils qui tournent bien ou qui tournent mal, mais toujours des fils. Il nous redit que la moisson vient toujours, mais qu'elle coïncide avec la fin du monde. Nous qui sommes si pressés d'arracher l'ivraie, devons laisser le temps agir et patienter. La moisson, c'est la consommation du siècle. Les moissonneurs, ce sont les anges. Évangile de Matthieu 13, 39. Nous expliquant la parabole de l'ivraie, Jésus nous affirme que le démon est son ennemi personnel, et cela à travers le monde et le siècle. L'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. Évangile de Matthieu 13, 39. Il s'efforce ainsi de ruiner l'œuvre de salut du Christ. C'est facile de dire qu'il n'existe pas, mais c'est faux. Il reste qu'en parler est difficile dans un monde imprégné par la science. Mais n'oublions pas qu'il est l'inventeur de la science du bien et du mal, tentation originelle, connaissance du bien et du mal. Le Fils de l'homme tient vraiment la place centrale dans l'histoire de l'homme. Il sème la semence, sa parole. Les hommes prennent parti pour ou contre lui. C'est lui qui fixe la fin des temps. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise de feu. C'est là qu'il y aura des pleurs et les grincements des dents. Alors les justes seront brillants comme le soleil dans le royaume de leur Père. Évangile de Matthieu 13, 41 à 43. Jésus ne décrit pas l'enfer comme un lieu de plaisance. Le ciel, Jésus y croit, et nous le présente sous un aspect de beauté et de bonheur. Les justes y brilleront comme le soleil. Les justes participeront à la lumière de Dieu, cette lumière qui est vie et intelligence, et que nous rappelle la transfiguration de Jésus sur la montagne. La tempête apaisée. Les siens, les douze, suivent Jésus. Ils ne peuvent se détacher de celui qui les a captivés par ses paroles, étonnés par ses gestes de puissance et de bonté. Qu'il aille sur les chemins pierreux de la Judée ou de la Galilée, ou qu'il monte en barque, ils sont toujours prêts à l'accompagner. Au moment de la tempête apaisée, c'est lui qui veut passer de l'autre côté du lac, en donne l'ordre, et les siens comme un seul homme le suivent. Et Jésus, voyant des foules nombreuses autour de lui, donna l'ordre de s'en aller à l'autre rive. Et lorsqu'il fut monté dans une barque, ses disciples les suivirent. Évangile de Matthieu 8, 18 à 23. Regardons Jésus dans ce récit de la tempête apaisée. On se trouve devant un homme à la conscience tranquille, bien équilibrée. La mer déchaînée et en furie ne l'empêche pas de dormir paisiblement sur les coussins du barreur. Sortant du sommeil au cri des siens, au milieu des éléments en rage, au milieu des hommes du bord affolés, on le voit se lever. Alors se levant, Évangile de Matthieu 8, 26, paisible, immensément grand dans son calme, il commande au vent et à la mer de monter, et ramène l'absolue tranquillité. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore la foi? » Évangile de Marc 4, 41. Toujours Jésus exige la confiance, même et surtout quand la situation semble perdue. Il reproche aux apôtres leur peur de la tempête, parce qu'il était là et il n'y avait rien à craindre en sa présence. Oui, il émane de Jésus une telle assurance, une telle sûreté, il inspire une telle confiance que sur une mer déchaînée de hardis marins, désemparés comme les flots, ne pensent qu'à demander secours à un homme qui dort. Tant les calmes reflétés sur son visage les engagent à l'absolue confiance. Ils ne demandent rien à leur vieille expérience. Cet homme qui dort, si calme et si beau, doit les sauver. Et ils sont stupéfaits de sa puissance sur les éléments déchaînés. Comment cet homme peut-il subitement calmer cette sauvagesse en furie? Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? Évangile de Matthieu 8, 27. La vue, les contacts de Jésus posent sans cesse cette question à leur esprit et à leur cœur. Mais qui est donc cet homme? Jusqu'au jour où jaillira l'affirmation incroyable dans la bouche de Pierre. « Tu es le Fils de Dieu. » Évangile de Matthieu 16, 16. La fille de Jaïr est la femme au flux des sangs. Quel est donc cet homme devant qui Jaïr se jette à genoux? Et tombant aux pieds de Jésus, Jaïr le suppliant d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans qui se mourait. Évangile de Luc 8, 42. Dans les pires angoisses, comme celles supportées par ce Père, c'est vers Jésus que l'on va. C'est lui que l'on invite à rentrer dans la maison. La prière l'y introduit. Il se trouve alors au cœur de nos angoisses. Mais la communion l'y fait aussi bien entrer chez nous et encore avec plus de facilité que chez Jaïr. Jésus traverse Jéricho. La foule est tellement dense qu'il ne peut avancer. Et voici qu'une femme malade depuis 12 ans, d'une perte de sang, s'étant approchée par derrière, toucha la happe de son vêtement, car elle disait, « Si je touche au moins quelque partie de ce vêtement, je serai guérie. » Et aussitôt son flux de sang s'arrêta. Évangile de Luc 8, 44. Au fond, la démarche de cette femme est très significative. Comme elle, c'est la personne même de Jésus qu'il nous faut atteindre à travers l'écorce tenue de son manteau. Comment les gestes de cette femme ne nous suggéreraient-ils pas ce contact personnel avec le Verbe de Dieu à travers la fibre de l'hostie consacrée? On le touche et l'on est guéri. Guérison physique pour cette femme, malade depuis 12 ans et qui brusquement se sent envahie par le bien-être et la vie, guérison spirituelle et psychologique pour nous dans cette rencontre avec le Seigneur dans la Sainte Communion. Malade, ruinée, voilà celle qui est venue vers lui. Il la guérit et provoque exprès les siens en leur disant « Qui m'a touché ?» Tous s'en défendent. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Jésus dit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une vertu était sortie de moi. » Évangile de Luc 8, 46. Étonnant en fait, seul notre contact avec Jésus nous guérit et guérira tous ceux qui nous entourent. Les contacts avec Jésus à travers sa parole et dans l'Eucharistie produit les miracles de la foi qui guérit. C'est lui qui contient Dieu, en rayonne la force et la bonté. Sa présence et son action transmettent Dieu. Il en est de même pour nous à son contact dans la prière et dans l'Eucharistie. Gardons pour nous la parole qu'il adresse à cette femme. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ce que Jésus aime trouver, c'est la confiance. Ce qu'il apporte, c'est la paix. Jésus possède le secret de ses impératifs de tendresse. « Ma fille, va en paix. » Comme il parlait encore, on se présente chez le chef de la synagogue, Jaïr, en disant « Ta fille est morte, pourquoi importunes-tu le maître ?» Jésus entendit et s'adressa à lui « Ne crains pas, fais seulement un acte de foi et elle sera sauvée. » Évangile de Luc 8, 50. Quelle délicatesse devant cette souffrance. Jaïr est assommé par la nouvelle qu'il vient apprendre. Désemparé, tout hébété, il reste là, figé, et Jésus lui glisse à l'oreille. « Ne crains pas, crois seulement. » À l'impératif de tendresse succède un impératif de compréhension, puis d'espoir. Devant la détresse de l'homme qui abandonne la lutte à l'annonce de la mort de sa fille, Jésus dépasse la mort et lui dit des folles paroles d'espérance pour lui rendre courage. Et puis, en entrant dans la maison, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, elle, mais elle dort. » Pour lui, il n'y a pas de mort. La mort n'est qu'un sommeil, et à la nuit succède le matin de la vraie vie près du Père. Mais aujourd'hui, ses mains, devant la détresse de Jaïr, feront les gestes de tendresse et de résurrection réservés à lui. Nos situations ne le laissent pas indifférent. Il entend et réagit jusqu'à contre la mort pour nous témoigner combien Dieu le Père comprend nos angoisses qu'il a voulu vivre en Jésus. Lorsqu'on eut fait sortir la foule, il entra, la prit par la main, lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Petite, je te le dis, lève-toi ». Et la petite fille se leva et ils furent tous bouche bée. Évangile de Matthieu 9, 25 à 26. Guérison d'un possédé. Jésus va libérer les possédés du pays des Gérasénien. Il a pitié de ce pauvre homme tombé sous la coupe absolue du démon. Comme il quittait la barque et mettait pied à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville possédé de démons, et depuis longtemps il n'avait pas mis d'habit et il ne demeurait pas dans une maison mais dans les tombeaux. Évangile de Luc 8, 26 à 27. Et le Seigneur prend l'initiative. Il ordonna au démon de le quitter et de le laisser en paix. Jésus disait au démon, « Sors, esprit impur de cet homme. » Évangile de Marc 5, 8. Dans leur manière de parler, Jésus et le démon manifestent leurs positions respectives. Les démons parlent humblement, en sujet apeuré. « Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Évangile de Marc 5, 7. Jésus, par rapport aux démons, a changé le monde, car fort jusqu'à ce jour, les démons se sentent désormais en difficulté. « Qu'y a-t-il de commun entre toi et nous, Jésus, fils de David ?» Évangile de Matthieu 8, 9. Les démons connaissent fort bien l'identité de Jésus et le craignent. Ils savent qu'avec sa venue, leur pouvoir s'effondre. « Tu es venu avant le temps nous tourmenter. » Évangile de Matthieu 8, 29. Et Jésus lui demandait, « Quel est ton nom ?» Et il lui dit, « Légion est mon nom, car nous sommes nombreux. » Évangile de Marc 5, 9. À leur demande, il les envoie dans les ports. Et voici l'homme libéré de l'abêtissement dans lequel le maintenait le prince des ténèbres, car celui-ci prend plaisir à plonger l'homme dans la fange et la bestialité. Alors les esprits impurs sortirent de l'homme et entrèrent dans les ports. Évangile de Marc 5, 13. Cette équation où l'égalité se fait entre la possession et la porcherie est d'un humour tragique. Car ce pauvre, Jésus l'a ressuscité à lui-même. Il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas méprisé, il l'a aimé. Le résultat est surprenant. Il en a fait un messager de la bonne nouvelle de l'Évangile. Retire-toi dans ta maison, auprès des tiens, et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et qu'il a eu pitié de toi. Évangile de Marc 5, 19. La pécheresse chez Simon. Lorsque Jésus est invité à manger chez Simon, le pharisien, il accepte simplement. Il cherche à l'éclairer pour le faire sortir de son formalisme et profite de l'occasion lorsque la pécheresse entre chez lui. Car dès que cette femme sait que Jésus est là, elle prend ce qu'elle a de plus précieux, son parfum, et vient. Et Jésus souligne que c'est justement sa richesse, sa pauvre richesse dont cette femme se sert pour traduire et sa déroute et son désir d'échanger de cap grâce au prophète. Car elle a osé franchir le seuil de la maison de Simon, les pharisiens, et aborder le prophète, l'homme de Dieu, elle que tous méprisent. Simon, lui, n'a rien compris. Il s'est arrêté devant les gestes bruts sans en saisir la nouvelle signification. Si cet homme était prophète, il saurait qu'il est la femme qui le touche, que c'est une pécheresse. Évangile de Luc 7, 39. Jésus devine la méchanceté de ces hommes qui l'épient, le juge. Il bouillonne intérieurement devant l'attitude hypocrite de Simon et pourtant, il va essayer de lui parler sans passion et lui raconter une parabole transparente. Car Simon et ses amis ne voient dans la pécheresse que la misère de son péché, et ils ignorent, dans leurs soucis formalistes, l'élan de cette âme vers Dieu. Jésus, dans la parabole adressée à Simon, s'arrange pour faire comprendre à cette pauvre femme que malgré tout il l'aime, et que toute sa délicatesse, toutes ses attentions à son égard, n'ont pas échappé à son cœur. Avec quel tact il sait souligner les trouvailles de ce cœur pécheur face au juste Simon. Lui a oublié les gestes de l'hospitalité alors qu'elle, la prostituée, a trouvé le moyen de de traduire le désarroi de son cœur. Et Jésus ose parler d'elle, la femme méprisée, et de la force irrésistible de son amour. C'est pourquoi, je te dis Simon, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a aimé beaucoup, mais celui auquel on pardonne peu, aime peu. À elle, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Évangile de Luc 7, 47 à 48. Jésus pardonne les péchés. Il ne les rumine pas comme les hommes justes. Il ne s'en souvient pas devant le témoignage d'amour. Celui qui l'aime est assuré du pardon. Jésus nous apporte la grande espérance du pardon des péchés. Nous ne sommes pas enfermés dans nos erreurs. Il suffit d'aimer. La personne de Jésus surprend et stupéfie ses contemporains, et cette question revient sans cesse sur leurs lèvres. Mais quel est donc cet homme? Son originalité et sa grandeur ne leur échappent pas. Et les convives se prirent à dire en eux-mêmes, quel est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Or, il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Évangile de Luc 7, 49 à 50.